Nous recevons à 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle la députée PS Karine Berger, députée de la première circonscription du département et candidate aux législatives. Karine Berger, bonjour.
Bonjour à tous.
Votre sentiment sur cette campagne qui s'achève concernant l'élection présidentielle?
Écoutez, nous, on est toujours en campagne. Hein, et, on a encore une semaine et je passe jour, peut-être pas nuit, mais en tout cas tous les jours, à faire campagne pour Benoît Hamon. Pourquoi? Parce que le vote dimanche prochain ne doit pas être un vote dicté par les sondages. C'est un vote qui doit être dicté sur les projets, sur les lignes politiques. Et je continue à essayer de convaincre notamment toute la gauche de bien porter son choix sur le seul qui peut rassembler la gauche dans une majorité politique, c'est-à-dire Benoît Hamon.
Pourtant, ça ne prend pas la campagne de Benoît Hamon au niveau national. On a le sentiment qu'il
pourquoi
est même en recul.
Pourquoi vous dites ça?
Je dis ça par rapport au.
Par rapport au sondage. Et voilà. Écoutez, vous savez, je fais de la politique depuis de très nombreuses années. La seule chose dont je suis certaine, c'est qu'il y a un décalage majeur entre notre terrain et les sondages nationaux. Je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Autant j'ai toujours vu et les mouvements à la hausse et les mouvements à la baisse que la gauche pouvait subir en parallèle, on va dire, chez nous et dans les sondages nationaux. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que j'invite vraiment tout le monde à arrêter de jouer d'accepter le jeu envoyé par BFM TV, ex-ITélé et autres.
Le vote utile, non, c'est
ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des services publics dans les zones rurales? Dans ce cas-là, votez Benoît Hamon. Est-ce que vous voulez rester dans l'Union européenne? Dans ce cas-là, votez Benoît Hamon. Est-ce que vous voulez que les collectivités locales continuent à être financées par l'État? Dans ce cas-là, votez Benoît Hamon, etc., etc. C'est ça le sujet. Dans la semaine qui vient, les Français, nos compatriotes, doivent se dire qu'ils doivent voter pour celui ou celle qui est celui ou celle qui mettra en avant ses convictions politiques, ses projets, sa façon de voir la France et nos territoires.
Alors les gens de gauche habitués à voter pour le candidat socialiste sont un peu désorientés en ce moment. Ils hésitent entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, qui apparaît le plus proche de remporter, toujours au vu des sondages, d'être en troisième ou quatrième position.
Vous pouvez me poser la question 40 fois, je ne commenterai pas. Je ne ferai pas le rôle de l'éditorialiste du Figaro ou l'éditorialiste de
voter Mélenchon, ce n'est pas bien.
Si vous voulez sortir de l'Union européenne, si vous considérez que 70 ans de paix dans l'Union européenne qui a été construit avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, c'est quelque chose qui vous intéresse pas, alors dans ce cas-là, votez Mélenchon, votez d'autres candidats qui veulent sortir de l'Union européenne. Si vous voulez rester dans l'Europe, si vous considérez que la paix et le rapprochement des peuples est là. Suppression des frontières, parce que c'est ça l'Europe, la suppression des frontières, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, votez Benoît Hamon.
Pourquoi n'y a-t-il pas plus de réunions publiques ou de soutien à Benoît Hamon dans ce département?
Alors,
on a le sentiment
mercredi,
que le PS est bien
mercredi,
silencieux.
Mercredi, alors moi je peux vous assurer que je fais campagne tout le temps pour Benoît Hamon comme beaucoup d'autres militants. Mercredi, j'invite tout le monde au Royal, à Gap. Nous recevons pour un meeting final, on soutient à Benoît Hamon, Michel Pouzol. Et Michel Pouzol, c'est un député de l'Essonne que tout le monde connaît au moins par son parcours, puisque c'est le seul député de l'Assemblée nationale qui était au RSA avant d'être élu député. C'est quelqu'un qui a eu une vie pleine de coups dans le ventre, qui a eu des moments très très durs, qui sait ce que c'est que la pauvreté, et qui a été élu député et que j'aime particulièrement parce que c'est quelqu'un de vraiment un vrai militant. Et c'est lui qui, avec lui, que nous ferons le meeting de soutien à Benoît Hamon à Gap au Royal mercredi à 20h.
Benoît Hamon a-t-il eu tort de mettre en avant la création du revenu minimum universel?
Pas du tout, au contraire. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai encore croisé une amie sur Gap là ce matin, dont pour des raisons, son entreprise l'a mise pendant quelques mois à mi-temps, parce qu'elle c'est une maman qui élève son enfant seule. Cette dame, elle n'y arrive pas. C'est-à-dire que là, elle a été obligée pendant 3 mois de demander des étalements. Bon. Le revenu universel, c'est pour tous les gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qui bossent, qui ont la niaque, mais dans la société actuelle, n'arrivent pas à leur permettre de vivre décemment avec un enfant. Le revenu universel, c'est quoi? C'est pour tous les gens qui ont moins de 2 200 euros de revenus, un complément de revenus, voire un niveau de subvention, enfin en tout cas de prestations collectives qui leur permettent de se loger, de se nourrir et puis évidemment d'élever leurs enfants. C'est la grande révolution sociale qui aura lieu quoi qu'il arrive dans les 10 années ou les 15 années qui viennent en France. Ça a été, c'est une longue histoire, vous savez, le revenu universel. C'est né avec le RMI, c'est né dans les années 80 avec cette fantastique idée du RMI. À l'époque, personne n'a hurlé quand on a dit, écoutez, quoi qu'il arrive dans notre pays, on ne laissera personne vivre avec moins de, grosso modo à l'époque, 350 euros par mois. Ça a augmenté, heureusement d'ailleurs, depuis lors. Cette idée-là, est-ce que quelqu'un l'avait combattu à l'époque ? Oui, la droite l'avait combattu. Le centre-droit l'avait combattu. C'est bien pour ça d'ailleurs que Fillon et Macron combattent cette idée. Mais cette idée-là, c'est la plus belle idée de solidarité qu'on ait eue en France depuis de très nombreuses années. Et le revenu universel n'est ni plus ni moins que le prolongement dans un monde où le travail n'est plus un travail, n'est plus quelque chose qui est stable, n'est plus quelque chose qui permet de se protéger des aléas de la vie. Et donc, d'une situation de non-travail qui avait créé le RMI, on doit inventer le revenu universel qui englobe aussi les cas où le travail est précaire.
Karine Berger, que pensez-vous du soutien apporté par François Hollande à Emmanuel Macron ?
Alors, je n'ai pas lu que François Hollande appelait à voter Emmanuel Macron.
Il l'a dit quand même. Oui.
Il n'a pas dit qu'il soutenait Emmanuel Macron et j'en ai absolument assez qu'on essaye d'interpréter les propos des uns et des autres. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, M. Macron propose d'augmenter la CSG pour tous les retraités qui ont plus de 1800 euros par mois. Donc si vous êtes retraité, si vous gagnez plus, si votre retraite est supérieure à 1800 euros par mois et si M. Macron est élu président, vous aurez votre retraite qui baissera de manière assez impressionnante, de 50 à 100 euros par mois, parce que vous avez votre CSG qui va augmenter. Monsieur Macron, c'est celui aussi qui propose, ni plus ni moins, de baisser de 20 milliards d'euros les dotations aux collectivités locales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que toutes les communes des Hautes-Alpes qui ont déjà eu à subir des baisses de dotation, vont devoir subir des doublements de baisses de dotation si M. Macron est élu. Ça veut dire quoi ? Toutes les associations qui n'arrivent plus à obtenir des subventions vont voir leur vie s'arrêter. J'appelle tous ceux qui sont membres d'associations et qui considèrent déjà que les baisses de subventions des collectivités locales les mettent en danger, à prendre conscience que Macron, Fillon, c'est la même chose, 20 milliards pour l'un, 15 milliards pour l'autre. Suppression des subventions aux collectivités locales égale suppression des subventions aux associations, ce qui dans notre département serait un tsunami.
C'est vrai qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment apprécié quand il était ministre de l'économie, ni le Premier ministre, hein, Manuel Valls, qui soutient aussi Emmanuel Macron.
La position de Manuel Valls est inacceptable. Il avait accepté les rôles de le jeu de la primaire. Il piétine le souhait de 2 millions d'électeurs, 6 000 dans les Hautes-Alpes. C'est inacceptable. Emmanuel Macron est quelqu'un de droite. Emmanuel Macron est quelqu'un de droite qui ne jure que par les centres-villes, qui veut supprimer très clairement les postes dans l'éducation nationale dans toutes les zones rurales. Quoi qu'en dise, et je ne comprends pas pour le coup pourquoi Joël Giraud soutient Emmanuel Macron, les écoles du Guillestroy, les écoles du Quéra, les écoles de toutes les zones rurales vont fermer si Emmanuel Macron applique sa politique, tout simplement parce qu'il l'a dit. Il a dit très clairement que lui, il supprimait les postes dans l'éducation nationale, là où il n'y avait pas des zones d'éducation prioritaire, et là où il y a des zones d'éducation prioritaire dans notre académie, c'est Marseille Nord. Donc, ayez conscience que votre classe rurale, si vous êtes dans les zones les plus reculées de notre département, fermera si Monsieur Macron, Monsieur Fillon, sont élus président de la République et appliquent leur politique. C'est un choix. Si vous ne voulez plus votre classe ou votre école dans votre zone rurale, votez pour eux. Si vous voulez garder, votez Benoît Hamon.
Karine Berger, que se passe-t-il au sein du PS, vous qui faites partie du bureau national ? C'est le grand désordre entre prônent une démocratie libérale et les réformistes.
Moi, je suis social-démocrate. Je suis très à l'aise dans mon parti. On a un candidat qui a été désigné par la primaire, et quelle primaire ? Qui s'appelle Benoît Hamon. Et le patron du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambaïs, a très clairement dit et fait, parce que c'est fait, retirer l'investiture socialiste à tous ceux qui, dans notre parti, soutiennent un autre candidat, quel qu'il soit. Et donc non, la chose est assez claire, en fait, le Parti Socialiste est complètement cohérent dans les choix qu'il a eus et faits de désignation de son candidat, et tous ceux qui ne se conformeront pas à la règle seront de fait sortis du parti.
Ce PS ne va-t-il pas mourir après cette élection présidentielle ?
Ah, ça, je suis absolument certaine, c'est que le Parti Socialiste continuera longuement. D'abord parce que le Parti Socialiste a déjà vécu des élections difficiles. 1993, je crois, qu'on était à moins de 60 députés socialistes à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on sera au-dessus, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle cette fois-ci. Et puis, au-delà des coups durs, il y a quelque chose de très fort dans le Parti Socialiste. C'est qu'on a une histoire, on a un passé, on a des valeurs qui nous rassemblent. Et même ceux qui, aujourd'hui, sont perdus parce que voilà, les bisbilles liées au quinquennat qui vient de s'achever ne sont pas digérées, ne lâcheront jamais l'héritage de Jaurès et l'héritage de Mitterrand.
Comment voyez-vous l'avenir de l'Assemblée nationale si... On ne sait jamais, Emmanuel Macron devient président, Karine Berger.
Moi je dis que l'élection présidentielle n'est pas jouée. Que chacun prenne conscience que dimanche prochain, dimanche 23 avril, la ligne politique du parti est dans ses mains. Et que celui qui est désigné ne doit pas être désigné en fonction de la couleur de ses yeux, de sa cravate ou de ce qu'il a, avec qui il a été marié, mais bel et bien de ce qu'il propose pour le pays. Après, l'Assemblée nationale sera forcément influencé par le choix politique du président de la République. Il n'y aura pas deux lignes différentes dans notre pays. Il n'y aura pas celle du président de la République et celle de l'Assemblée nationale. Si le président de la République veut supprimer les dotations aux collectivités locales et supprimer les écoles en zone rurale, comme veulent le faire Macron et Fillon, l'Assemblée nationale, malheureusement, aura probablement cette tendance-là.
Alors c'est une candidate que nous recevons aujourd'hui.
Tout à fait.
Pour les législatives dans la première circonscription du département. Vous êtes en campagne depuis combien de temps déjà ?
On a lancé la campagne il y a un mois et demi à peu près.
Quel est le climat ? Qu'est-ce que vous disent les maires de la première circonscription de ce département ?
D'abord,
excepté le maire de Gap.
D'abord, effectivement, excepté le maire de Gap. D'abord, ils reconnaissent mon travail. Et c'est vrai que notre première partie de campagne, c'est sur le bilan en tant que député.
Mais ne sont-ils pas, perturbés par le climat au niveau national ?
Bien sûr,
par cette élection présidentielle.
Les débats politiques ont lieu. Mais puisque vous me rameniez sur les législatives, je me permettais de donner une réponse sur les législatives. Les rencontres très nombreuses que j'ai avec les maires de ma circonscription me confirme qu'effectivement le débat politique n'est pas clos, mais me confirme aussi qu'y compris chez des élus, le projet, c'est-à-dire les lignes politiques des différents candidats, est regardé avec attention dans les derniers jours. Et que ce soit d'ailleurs des maires plutôt de droite ou des maires plutôt de gauche, il y a une forme, on va dire, de retour au réel. C'est-à-dire qu'un maire de droite, il retrouve ses valeurs dans les candidats de droite. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc voilà, après on commence à parler législative et c'est vrai que moi je défends mon bilan, on l'a fait sur 6 thématiques, ce bilan.
On y reviendra, Karine Berger. C'était sur le climat,
je vous laisse mener l'interview, Bruno Honoré.
Les maires socialistes sont un petit peu quand même désorientés, non ? Et ils ne savent pas entre Mélenchon, entre
Alors, moi,
Macron,
pour être franche,
entre
Benoît Hamon. Je n'ai pas rencontré de maire qui vont voter Mélenchon. Tout simplement parce que...
Ça serait dangereux, selon vous pour,
Non. Il n'y a qu'un vote dangereux dans notre pays, c'est l'extrême droite. Parce que l'extrême droite veut vous mettre dans la tête que celui qui est la cause de tous vos malheurs, c'est l'étranger. Et l'étranger, il commence à la fin de votre jardin. L'extrême droite, c'est une histoire. L'extrême droite, c'est le XXe siècle de l'horreur, du fascisme. L'extrême droite, c'est tout ce qui a fait qu'une civilisation bascule dans l'horreur. Donc, il n'y a qu'un seul vote dangereux dans notre pays. C'est celui pour Marine Le Pen. Les autres sont des votes démocratiques. Mais Mélenchon propose la sortie de l'Union européenne. Et je veux dire, pour les maires qui ont des gestions de collectivités, cela signifie très concrètement des chutes de pouvoir d'achat, des remises en cause complètes de leur équilibre financier. Et aussi, tout simplement, soyons francs, la fermeture des frontières. Ça veut dire que si la France sortait de l'Union européenne, les personnes que nous avons accueillies via la frontière italienne de migrants, et je sais que dans le nord du département, c'est quelque chose qui est très important, c'est fini. Il faut avoir conscience que Mélenchon, c'est la fin des frontières ouvertes dans l'Union européenne.
Les collectifs Tous Migrants organisent d'ailleurs demain une opération Tous
Migrants.
Vous y serez ?
Non, parce que on est vraiment sur la partie campagne électorale. On essaye quand même vraiment de faire en sorte que ce soit le projet de notre candidat Benoît Hamon qui soit connu au maximum. Et il nous reste suffisamment pas de jours pour faire autre chose dans la semaine qui vient.
C'est très féminin, la campagne pour les législatives dans la première circonscription de ce département.
À ce stade. En tout cas, les candidatures vraiment déclarées sont à ce stade effectivement deux féminines et une, deux féminines et deux masculines.
Donc les élus que vous rencontrez hésitent plutôt, enfin pour ceux de gauche, entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron.
Oui, hein, tout à fait. S'il y a une liste,
comme les élus de droite d'ailleurs hésitent entre François Fillon et Emmanuel Macron.
Alors très peu. Peu d'élus de droite qui hésitent. Les élus de droite sont un peu perdus, faut bien avouer, parce que la campagne du côté de la droite est rendue quand même très très compliquée par les révélations. Il est vrai assez ahurissantes sur le comportement de Monsieur Fillon vis-à-vis de l'argent, mais les élus de droite vont plutôt avoir une interrogation entre Fillon et vote blanc.
Alors parlons de votre campagne, Karine Berger, députée PS de la première circonscription de ce département. D'abord un bilan, vous êtes satisfaite de ce que vous avez vécu en tant que députée? C'était la première fois que vous étiez députée, Karine Berger?
Alors c'est la première étape de la campagne électorale, on veut législative. On veut montrer ce qu'on a fait pendant 5 ans. Et on a fait un paquet de choses. Le bilan qu'on a dressé, qui fait plus de 24 pages, s'organise sous 6 thèmes: l'agriculture, la culture, les services publics bien évidemment, les entreprises, la nature et puis le tourisme.
On a dit de vous que vous étiez une députée hors sol, qu'on vous voyait peu.
Alors ça c'est la droite qui l'a dit, mais enfin oui. Si vous reprenez les paroles de la droite, je vous laisse libre de vos propos, vous donnerez. Je sais que j'ai un bilan qui est évidemment un bilan essentiellement tourné vers le département. Le bilan en question, je parle assez peu de ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale, mais qui sera abordé dans le débat évidemment général. 24 pages de bilan pour le département. Deux exemples qui me tiennent particulièrement à cœur. L'exemple peut-être dont je suis le plus fier, c'est ce qu'on a fait dans le Buëch et la création du serre-ponçon photovoltaïque. En quatre ans, on a construit l'équivalent de la puissance énergie renouvelable de serre-ponçon en photovoltaïque dans le Buëch. L'équivalent. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on a réussi à faire serre-ponçon bis en photovoltaïque, et j'ai pris ma part, le moins qu'on puisse dire, de cette construction. Ça, c'est un exemple dont je suis très fière parce que je m'y étais engagée. Je voulais absolument que cette vallée du Buëch devienne la vallée de la lumière, comme je l'avais dit, et on l'a fait et on va continuer si je suis réélue. Puis un deuxième exemple qui c'est ce que j'ai fait pour les services publics de ce département. Le maintien des douanes dans le département, c'est quelque chose que j'ai arraché au ministère de Bercy. Le maintien du train de nuit. Je raconte toujours cette anecdote qui n'en est pas une. La commission Duron, qui était chargée de revoir tous les transports publics, en tout cas les trains d'équilibre du territoire, nous avait annoncé qu'ils supprimaient tout. Et donc je suis descendue un soir à Marseille, en présence de Michel Vauzel, de Christine Nivou. J'étais avec une élue de Briançon, je m'en rappelle. Et on a arraché à Duron le maintien du train de nuit Paris-Gap-Briançon. Et ça, c'est une bataille qui a été menée, c'est vrai, avec d'autres élus, mais dont, à titre personnel, je suis très fière parce que je pense qu'on n'aurait jamais, jamais réussi à l'arracher si on n'avait pas eu cette proximité entre élus socialistes, puisque Duron était député socialiste. Ça fait partie de tout ce que j'ai voulu mettre en avant dans ce bilan. Je parle aussi de l'agriculture, je parle de la culture, bien évidemment, qui est une thématique, comme vous le savez, qui me tient beaucoup à cœur. Et puis des entreprises de ce département que j'ai pu aider. C'est des choses qui, en l'espace de 5 ans, embrassent des tas de petits petites avancées ou de grosses victoires, où il y a aussi eu des moments où ça n'a pas marché, mais qui au final me donne, je crois, un tableau qui est celui que je veux porter dans cette campagne initiative, celui de la génération Hautes-Alpes. Je pense qu'on doit être fiers de notre département, de toutes ces initiatives, de ces projets, que ce département a considérablement changé en 5 ans, et que cette génération Hautes-Alpes, c'est celle que je veux porter, que je veux aider, que je veux faire aboutir dans ces projets. Et ce que j'ai fait pendant 5 ans, j'ai bien l'intention d'essayer de le poursuivre pendant les 5 prochaines années.
Donc maintenir les écoles rurales, vous l'avez dit.
Alors j'ai même pas évoqué la question des écoles de service public, mais 40 postes créés dans le département.
C'est vrai que depuis 5 ans, on n'a pas eu de grève à la rentrée, ça s'est toujours bien passé.
Aucune classe supprimée, aucune école fermée, et 40 postes créés dans le département. Pour vous donner une idée, par rapport aux créations nationales, 58 000, on aurait dû avoir droit à 14-15 postes. On en a eu 40. Pourquoi ? Parce que je me suis battue chaque rentrée avec leur recteur d'académie pour lui expliquer que c'est vrai qu'il faut des postes dans les quartiers nord de Marseille, mais c'est tout aussi important que les vallées rurales de notre département soient fournies. Je dis attention, ça peut être détruit en l'espace de 5 ans par quelqu'un qui décide que l'éducation nationale, c'est plus prioritaire dans les budgets.
Beaucoup d'entreprises nous ont dit avoir été sauvées par le CICE.
Alors le CICE,
est-ce que c'était une bonne mesure donc ?
Le CICE, c'est une mesure qui, pour les PME, était gagnante, et pour les grandes entreprises, c'était de l'argent un peu inutile, au sens où malheureusement, une grande partie pour les grandes entreprises s'est retrouvée dans les profits aux actionnaires. Donc le CICE, moi je reste persuadée qu'il fallait le mettre sous condition, ce que propose d'ailleurs Benoît Hamon, obligation de négocier l'utilisation du CICE avec les syndicats. Pour les PME, c'est vrai que ça a été une bouffée d'air, mais pas que, hein, il y a eu aussi le plus récemment la mesure de soutien à l'embauche pour les PME, et puis aussi le crédit d'impôt recherche. Moi je pense à une entreprise comme Netceller à Vennes, qui est une entreprise fantastique, qui a réembauché facilement 10 ou 15 personnes dans l'espace de 2 ans, et qui est portée à bout de bras par le crédit d'impôt recherche. Donc on a vraiment des mesures qui pour les PME ont eu lieu, mais qui peuvent encore aller plus loin. Moi je fais partie de ceux qui se battent pour que les brevets des PME soient protégés partout en Europe. C'est des choses que j'ai défendues à l'Assemblée nationale. Ça fait partie des choses que je n'avais pas réussi à obtenir, notamment de Macron, ministre de l'économie, mais je ne lâcherai pas l'affaire, parce que dans notre département, il y a des tas d'entreprises qui sont pillées en brevets intellectuels par des entreprises étrangères, et il faut leur donner les moyens de se défendre.
Êtes-vous pour la baisse des charges des entreprises ?
Moi, je pense que tout doit désormais être de la démocratie sociale, c'est-à-dire que si on doit donner des allègements de cotisations patronales, ça doit être négocié leur utilisation avec les syndicats. Sinon, c'est de l'argent qui... C'est l'argent qui va nulle part, qui va ni sur l'emploi, ni sur le salaire, et qui risque d'aller sur les profits. Donc, si on fait des mesures de baisse de cotisation pour les entreprises, négociation obligatoire avec les syndicats de salariés pour savoir comment cet argent va être utilisé au mieux.
C'est ce que préconisait la loi El Khomri ?
Alors, la loi El Khomri, c'était plus compliqué. La loi El Khomri...
Parce que vous étiez contre. Hein,
oui, mais j'aurais voté dans la version... final, j'aurais clairement voté contre pour deux raisons. La première, c'est que la loi El Khomri réduisait massivement la rémunération des heures supplémentaires, passer d'une rémunération de 25% supplémentaire à 10% supplémentaire. Et ça, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, je pense que ça faisait partie des choses qu'il aurait fallu absolument maintenir surrémunérées. Et la deuxième chose, c'était que la négociation avec les syndicats, que j'approuve quand il y a des coups durs dans l'entreprise ou quand il y a des aides financières d'État, étaient généralisées au cas où les entreprises voulaient simplement faire de la compétitivité et faire des marchés. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas demander aux gens de réduire leur salaire, ou voire de licencier, uniquement parce qu'on veut encore faire plus de profit. La négociation s'arrête à ce moment-là.
Sur le projet RTE, là, vous avez été, vous l'avez soutenu, vous n'avez pas enterré le projet RTE,
oui.
C'est le cas de le dire.
Je n'ai jamais soutenu le projet RTE, contrairement à ce que certains affirment. Je n'ai jamais, je mets au défi quiconque de trouver une déclaration de moi soutenant le projet RTE. Publique de moi soutenant le projet RTE. Pourquoi ?
Mais vous n'avez pas fait partie de ceux qui luttaient contre.
Ah ben parce que je suis en désaccord avec les méthodes qui ont été utilisées. La coupure de la nationale il y a un an et demi, je crois, je sais plus très bien, c'est pas acceptable. Donc je fais partie de ceux qui ont joué un bras de fer avec RTE pour essayer d'obtenir à minima qu'on renégocie le tracé et l'enfouissement. Je ne l'ai pas obtenu, et donc non, je ne suis pas soutien du projet RTE, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais en l'état des choses.
Karine Berger, alors quelques idées fortes, profitez de notre micro, que vous défendez dans cette campagne, si vous êtes réélu aux législatives prochaines.
Ah bon, écoutez, trois axes qui me paraissent absolument, qui seront parmi les axes de campagne. Premier axe, le plus important, c'est le réseau de services publics de proximité sur l'ensemble du département. J'ai cité les écoles. Je peux vous assurer que si on lâche sur cette affaire, si on lâche les postes dans les zones rurales, ce que veulent faire encore une fois Fillon et Macron, on est mort, mais mort. C'est-à-dire que l'ensemble de l'équilibre des Hautes-Alpes vole en éclats, tout simplement parce que c'est vraiment le tissu de présence des écoles qui arrive à faire en sorte que notre département a son identité et a sa vision. Donc la défense des services publics, de la présence des services publics, mais pas de tous les services publics, bien évidemment, puisque on a des tas d'exemples de maisons de services publics qui permettent de rapprocher l'offre de services publics. Mais il y en a certains sur lesquels je ne me battrai jusqu'au bout, et la question des écoles est à mes yeux un exemple typique de ce sur quoi je continuerai à porter le fer, quitte à effectivement exiger qu'on soit un peu plus solidaire avec nous qu'avec les autres. Le deuxième axe de campagne que je souhaite mener, c'est sur la question de la protection de l'environnement. On a fait beaucoup de choses, mais on est dans une situation où pour le reste de la France, les Hautes-Alpes ou les territoires ruraux, c'est ceux qui doivent faire tout l'effort environnemental sans qu'il y ait d'équilibre entre les productions, les équilibres sociaux, etc. Et en même temps, on a des efforts considérables à faire nous-mêmes, sur par exemple le traitement des déchets. Dans les Hautes-Alpes, on a du retard, moins dans le nord du département que dans le sud, en tout cas dans ma circonscription, sur le traitement des déchets. On a des zones de rassemblement des déchets qui sont complètement obsolètes, et on a un manque encore d'éducation majeure de l'ensemble de la population sur le recyclage et sur le traitement. Ça fait partie des choses sur lesquelles à la fois avoir une protection de la nature qui nous permet de continuer à nous développer économiquement et socialement, mais en même temps développer beaucoup plus fortement nos propres comportements, ça fera partie de ma campagne législative. Et puis le troisième sujet, c'est évidemment le développement économique. Vous savez que ça fait partie des choses que j'ai toujours défendues et sur lesquelles je me suis toujours battue. Je continuerai ce que j'ai commencé à faire pendant 5 ans sur le photovoltaïque. Hein. Encore une fois, on a fait Serre-Ponçon, on peut faire un troisième Serre-Ponçon si nécessaire en matière de production énergétique. Et puis la question des PME et de la présence des PME dans l'ensemble du département, ça passe par quoi ? Ça passe par une couverture numérique beaucoup plus forte. Le SMO, le syndicat qui a mis en place le réseau de numérique dans le département,
présidé par Chantal Emehoud,
qui aujourd'hui est présidé par Gérard Tenoux, je crois. Voilà, en tout cas sur le départ du côté départemental, je crois que c'est Gérard Tenoux, mais toujours est-il qu'il y a un coup d'arrêt qui est très net depuis un an, et ça pose un problème pour pas mal de PME, notamment du tourisme, ou tout simplement d'ailleurs des PME de haute technologie qui sont dans les zones un peu plus reculées, ou même d'ailleurs en plein Gap ou en plein Briançon. Et donc ça fait partie des choses, c'est-à-dire les infrastructures au service des PME dans le département, ça fait partie des choses sur lesquelles je me suis battue pendant 5 ans, mais je crois honnêtement que ça fera partie des très grandes priorités de mon nouveau mandat si je suis réélue.
Terminons 3 minutes sur l'actualité gapençaise. Oui. C'était cette semaine la victoire des Rapaces.
Tout à fait.
Les Rapaces, l'équipe de hockey gapençaise, championne de France. Vous n'étiez pas au match, c'était à Rouen.
C'était un peu compliqué à Rouen.
Peut-être l'avez-vous regardé à la télévision.
J'en ai vu des passages. Moi, je suis pas une fan de hockey, mais par contre, je trouve que le parcours des Rapaces est extraordinaire, vu les moyens de l'équipe. Alors, je sais que le coach, par ailleurs, est soutenu par tout le département. C'est pas Gap contre Briançon, pour le coup c'est Gap et Briançon. Donc on est sur un parcours assez hors norme d'un club qui a quand même peu de moyens. J'ai demandé au maire de Gap, Roger Didier, de faire en sorte de faire un effort, parce que on peut pas avoir une équipe d'élite de ce niveau-là, parce que c'est une équipe d'élite hein, quand on rentre dans les championnats européens. On peut pas avoir une équipe de ce niveau-là si on suit pas financièrement. Et donc voilà, ils font un travail fantastique, ces garçons. Il faut à maintenant que notre département, notre collectivité locale de Gap soit à la hauteur de leur engagement.
La région également,
mais franchement, je pense que ça commence d'abord quand même par la commune et la communauté d'agglomération. Juste pour vous donner une idée, les subventions que Briançon accorde à son équipe de hockey, ce sont deux fois plus importantes que les subventions accordées par Gap. Donc on a quand même un vrai sujet de soutien à une équipe qui, objectivement, de l'avis de tout le monde, même si je ne suis pas une spécialiste de hockey, a fait une saison totalement hors norme.
Gap qui n'a toujours pas de PLU.
Moi, je tourne dans les associations de quartier. D'ailleurs, si certaines nous entendent et que je n'ai pas encore contacté, n'hésitez pas à m'appeler, les associations de quartier de Gap, pour déjà discuter tranquillement des projets de PLU. Parce que les enquêtes publiques, l'enquête publique, c'est au mois de mai. Ça va très très vite, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver, là je parle à Ogapensé, vous pouvez vous retrouver dans une situation où votre quartier est complètement modifié, mais fin mai, vous n'aurez plus droit à la parole. Donc moi je fais le tour des associations de quartier pour alerter tout le monde, pour regarder les plans. Il y a certains quartiers où le bétonnage va être massif, il y a certains quartiers où 250 logements supplémentaires sont prévus dans les 15 prochaines années. C'est considérable. Donc j'essaye de faire en sorte que toute la population gapensaise ait conscience que la ville ne sera plus la même après ce PLU, parce que Monsieur Didier a décidé de porter son bétonnage sur certains aspects de Gap, notamment la partie la plus ouest de Gap. Je pense que ça mérite une discussion politique très sérieuse. Je pense que les infrastructures, notamment justement j'évoquais la question du traitement des déchets ou tout simplement les infrastructures de circulation, sont absolument pas prêtes pour certaines densifications annoncées par le PLU. C'est maintenant que le débat a lieu. Venez nous voir au Parti Socialiste. On a tous les plans, on a tous les moyens de discuter, et nous, si vous n'êtes pas nous voir, de toute façon nous on vient vous voir dans les associations de quartier.
Merci Karine Berger.
Merci de votre
invitation.
Bonne campagne. Merci à vous.